14h05, minutes, nous sommes en attente de la ministre de la Sécurité publique, ministre aussi responsable de la région de Québec, puis au surplus et vice-première ministre Geneviève Guilbeault, qui va faire le point sur la situation de la crue printanière. On le sait qu'elle a déjà demandé au gouvernement fédéral l'aide de l'armée qui sera accordée.
C'est automatique.
Oui. C'est automatique. Elle fera sa conférence de presse donc à la Tour des Laurentides à Québec. Pour ceux qui ne connaissent pas le coin, là, c'est l'édifice de la SSQ sur, le, sur la rue Laurier à Québec. Très bel édifice d'ailleurs. Vous entendez Luc Lavoie. Moi, il y a quelque chose. Moi, j'aime Geneviève Guilbeault parce qu'il y a quelque chose de rassurant en elle dans le sens où aussitôt qu'il y a une catastrophe. Rappelons-nous les îles de Madeleine l'année passée. Oui. Là, la journée où le câble s'est cassé là, à cause des grandes marées, ça a été automatique. On dirait que c'est là. Et Coiteux avait compris ça, lui, dans la dernière année, lorsqu'il était ministre de la Sécurité publique. Il faisait pareil, lui aussi.
Oui.
Je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant quand une ministre ou un ministre s'implique directement et aussitôt ou même avant la catastrophe.
Ben, tu sais, tout le monde a été frappé par la fameuse crise de l'autoroute 13 il y a 2 ans et quelques mois. Et c'est là que tout le monde a appris sa leçon. Il y avait un centre de contrôle des opérations, mais personne ne savait exactement où les choses s'en allaient. Puis le temps...
C'est qu'une ministre l'apprenne le lendemain matin, il y avait quelque chose de drôle là-dedans.
Il y avait quelque chose d'un peu bizarre. Alors que Mme Guilbeault, elle a choisi d'être extrêmement, pour employer le mot à la mode, proactive.
Mm-hmm.
Elle va sur les lieux et elle semble en contrôle de ses dossiers. Elle a fait une... Depuis son élection, elle a fait une petite gaffe là, sur la question de la laïcité, mais à part ça, c'est une ministre assez solide du gouvernement, une vice-première ministre solide. Et pour la région de Québec, quelqu'un qui a du poids politique, il ne faut pas oublier que la CAQ, ce n'est pas à Montréal qui se sont fait élire, là. C'est plutôt dans la région de Québec, puis dans Montérégie, puis dans le reste du Québec. Montréal ne fait pas partie vraiment du jeu. Alors, Geneviève Guilbeault est quelqu'un dont la Ville de Québec a toute raison d'être fière. Là. Elle fait bien ça.
Oui, tout à fait. Et de voir que le gouvernement est proactif aussi, là, ça semble rassurer les gens aussi d'une façon générale. Là.
Ben oui, parce que dans le passé, on avait développé la perception que, mon Dieu Seigneur, comment ça se fait que ça prend tant de temps avant que quelque chose se passe? Tandis que là, on voit que tout le monde est beaucoup mieux préparé, décrète les mesures d'urgence beaucoup plus vite, anticipe ce qui va se passer. On connaît les prévisions de la météo. Là. Ça ne s'annonce pas pour être particulièrement sec.
Non.
Alors, non.
C'est 25 mm aujourd'hui, 5 à 10 demain. T'es rendu à 35. Ça commence à faire de la pluie.
Ça commence à faire de la pluie.
Temps chaud, 17-18 degrés. Ouais. Fonte des neiges. Là, les rivières vont se remplir. Ça va s'emmener dans le fleuve. Là, c'est les grandes marées qui vont comme stopper la sortie de l'eau des rivières. Là, t'es dans le trouble.
Ah oui, t'es dans le trouble. Clair. Mais tôt ou tard, il va falloir, et Mario Dumont, ce matin, dans le Journal de Montréal, a une chronique intéressante en ce sens-là, et il appère que Mme Guilbeault est en train de travailler là-dessus. À un moment donné, on ne peut pas, à chaque année, reprendre le même cirque. Il va falloir déterminer des zones où on ne peut pas construire. Tu sais, parce que c'est la collectivité en entier qui paye. Et là, je pointe le doigt vers personne, puis je sais qu'il y a des gens présentement qui sont extrêmement nerveux de ce qui risque de leur arriver, et qui vous diront, il y a 20 ans, quand on s'est établi ici, à tel endroit ou tel autre, il n'y avait pas ce genre de problème. Mais la réalité, c'est qu'il y a ce genre de problème maintenant, et que les municipalités vont devoir jouer un rôle beaucoup plus rigoureux avant de donner un permis pour construire ici ou construire là. On ne peut pas, chaque année, au même endroit, recommencer la même chanson.
Oui, c'est beau, l'assiette fiscale, mais à un moment donné, il faut mettre un haut là, parce que ça coûte cher aussi.
Oui, puis aussi, Québec. Ces familles-là doivent comprendre. Là, écoute, c'est pas sain pour vos enfants d'être dans une
tout
zone.
Tout à fait, tout à fait.
Pour les années, crainte d'inondation ou l'inondation elle-même.
Ah, c'est difficile. On va aller rejoindre tout de suite notre journaliste à Cogeco, Stéphane Boucher, qui est à Rigaud présentement. Bonjour Stéphane.
Salut François.
La situation là-bas, c'est quoi? Là? Est-ce qu'on commence déjà à sentir cette crue des eaux là-bas?
Oui. Ça, c'est certain qu'on la sent. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'inondation comme telle. Mais pour vous donner une idée, on est à 23 mètres et demi et le seuil critique, c'est 24 mètres. Donc, on est pas tellement loin.
Il en reste pas bien.
Il en reste pas beaucoup. Là. Évidemment, à Rigaud, où est-ce que je suis, ce qui pose problème, ce qui pourrait arriver, c'est le débordement de la rivière des Outaouais. Pour vous donner un autre ordre d'idée, hein, parce que c'est on peut s'exprimer en termes de débit pour comprendre l'importance de la situation, il y a à peu près 3500 mètres cubes d'eau qui passent par la centrale Carillon en temps normal. OK? Oui. On est à 7 000 actuellement.
Oh, là,
donc, on
double.
Est près du double. On est près du double.
Ouais.
Et le seuil critique, c'est 7200 mètres cubes d'eau. Fait qu'on est à peu près à 200 mètres cubes d'eau là, d'avoir des inondations majeures. Et on pense que ça pourrait se rendre jusqu'à 9000 mètres cubes d'eau par seconde d'ici mardi. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des inondations ici. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est dans quelle mesure ces inondations-là vont être importantes.
Mais vous êtes sûr, ce que j'entends, là, c'est qu'il va y avoir des inondations, là.
Oui, il va y avoir des inondations, évidemment. On ne le souhaite pas, là, mais il y a des fois où la météo est peut-être plus sûre. Je pense que c'est le cas ici. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que la ville prend aucune chance. Donc, on fonctionne, on prend les mesures en fonction qu'il y ait des inondations. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va être certain, on est certain qu'il va y avoir des inondations. Maintenant, c'est dans quelle mesure elles vont être importantes, ça, on ne le sait pas. On sait que le maire Hans Grunewald a déclaré l'état d'urgence hier. Ici, il y a un avis d'évacuation qui touche à peu près 350 résidences. Évidemment, c'est pas un avis qui est obligatoire. Hein. Les gens sont libres de rester ou de partir. Ce que la ville fait pour l'instant, c'est qu'il y a du porte-à-porte. Il y a des pompiers qui font du porte-à-porte, évidemment, pour s'assurer qu'on sait comment fonctionne une génératrice, couper l'électricité si jamais l'eau monte. C'est important de dire aussi qu'il y a des psycho-intervenants qui se promènent à l'intérieur de la ville pour s'assurer que, j'imagine, que les gens supportent psychologiquement assez bien la situation. Et concrètement, moi, ce que je me retrouve actuellement juste à côté d'une montagne de sable. Donc, la ville vient alimenter cette montagne de sable-là. Et il y a à peu près, je dirais, peut-être une dizaine de camionnettes avec des remorques donc, qui remplissent les sacs.
Très bien, je suis obligé de vous couper, Stéphane, parce qu'il faut aller à Québec absolument. La ministre Geneviève Guilbeault qui va parler.
Bonjour tout le monde. Eh bien, évidemment, une mise en situation, une mise à jour, c'est-à-dire de la situation, c'est l'objectif de la communication d'aujourd'hui. Donc, sur la base des informations des dernières heures, je peux vous dire que les risques d'inondation qu'on entrevoyait depuis quelques jours demeurent les mêmes, mais ce qu'on constate, c'est que ça pourrait s'échelonner sur plus de jours que ce qu'on pensait. Donc, les premières inondations majeures pourraient survenir un petit peu plus tard que ce qu'on croyait, donc possiblement à partir de dimanche, sous grande réserve, évidemment, de l'évolution de la situation. Là, on n'est pas à l'abri d'une modification dans les prévisions météo, mais on pense à des premières inondations majeures dimanche, à moins qu'il survienne des embâcles ou autres éléments qui pourraient faire en sorte que ce soit avant. Donc, un délai un petit peu plus long. Néanmoins, nous continuons évidemment de surveiller la situation de très près. Et sur la base, justement, de cette information, des données que nous avons sur l'augmentation de la crue des eaux, j'ai demandé une intervention du gouvernement fédéral dans le but d'atténuer autant que possible les conséquences de ce que nous anticipons sur nos citoyens, sur nos infrastructures et sur nos services. Ce matin, j'ai donc envoyé une demande formelle en ce sens à mon vis-à-vis fédéral, M. Ralph Goodale, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, pour demander cette assistance fédérale. M. Goodale m'a répondu positivement, s'est montré très ouvert à collaborer, et donc je l'en remercie. J'ai également parlé directement au brigadier général, Mme Jenny Carignan, pour l'aviser de mon intention de demander ce concours du gouvernement fédéral et des Forces armées canadiennes. Et je veux également souligner sa collaboration à Mme Carignan, qui est toujours excellente aussi quand on s'adresse à elle. Alors, grand merci aussi pour ça. Nous avons eu une conférence téléphonique de l'Organisation de la sécurité civile du Québec à 13 heures aujourd'hui. Nous en avons tous les jours, bien sûr, mais donc la dernière était à 13 heures, donc d'où cette mise à jour de la situation dont je vous ai fait part en tout début de communication et bien sûr dans le but de continuer de coordonner notre action partout au Québec. Mon équipe a également informé l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, de même que les chefs des partis d'opposition. Donc, nous avons communiqué avec eux ce matin pour également les garder au courant de l'évolution de la situation. J'ai aussi eu des contacts avec mon collègue ministre de l'Économie et de l'Innovation et nous avons fait en sorte de permettre exceptionnellement aux commerces de pouvoir être ouverts ce dimanche de Pâques parce qu'on sait que les commerces ne peuvent pas être ouverts normalement le dimanche de Pâques, mais mon collègue de l'Économie et moi avons fait en sorte d'offrir cette permission spéciale au commerce pour qu'ils puissent évidemment fournir des services et des biens aux citoyens qui pourraient en avoir besoin. Alors, les municipalités qui sont intéressées à se prévaloir de cette permission spéciale peuvent le faire sur le site Internet d'Urgence Québec ou du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, pour ce qui est du reste, eh bien, évidemment, vous le savez, on s'attend à des précipitations importantes au cours des prochains jours. Nos équipes du ministère de la Sécurité publique continuent d'être déployées dans les zones à risque pour aider les municipalités, les citoyens qui en ont besoin. Et à ce stade, je veux en profiter pour souligner la conduite exemplaire de plusieurs citoyens, plusieurs municipalités, plusieurs élus un petit peu partout qui, depuis le tout début, prennent des mesures préventives importantes en vue des prochains jours. Alors, je veux les en remercier, les en féliciter, continuer cet effort de prévention et de mobilisation. Évidemment, nous continuerons, nous, d'être en soutien à toutes les municipalités qui en ont besoin. Et donc, pour résumer et conclure, j'ai sollicité donc l'assistance des Forces armées canadiennes et d'autres intervenants fédéraux pour venir appuyer les efforts d'intervention d'urgence dans plusieurs régions du Québec. La durée de cette assistance fédérale sera déterminée en fonction de l'évolution de la crue printanière et aussi de l'évolution de la réalisation des tâches sur le terrain jusqu'au rétablissement de la situation. Nous allons également maintenir les efforts de communication au cours des prochaines heures, des prochains jours, nous assurer de garder les citoyens informés de l'évolution de la situation par l'entremise de points de presse, comme c'est le cas présentement ou autrement, mais nous nous assurons de garder les citoyens informés. Et sachez que je ne ménagerai aucun effort au cours des prochains jours pour assurer la sécurité de tous nos citoyens. La sécurité des gens sera ma seule et unique priorité dans les prochains jours.
Madame Guilbeault.
On va faire une déclaration en anglais tout d'abord.
Alors voilà la ministre Geneviève Guilbeault, ministre de la Sécurité publique, d'abord et avant tout, c'est le chapeau qu'elle avait là présentement, qui nous disait donc que la crue va être plus importante, puis ça va être un petit peu plus long que prévu. On s'attendait à ce que ça, lundi ou mardi, ça soit terminé, mais là, ça va aller au-delà.
Il n'y a pas de conditionnel.
Non, c'est ça.
C'est ça qui va arriver.
Voilà. On a demandé l'aide de Ginny Carignan, qui est la brigadière générale, qui a accepté de l'intervention du gouvernement fédéral. Tout le monde de la sécurité civile se réunit à tous les jours à 13 heures et tous les partis sont avertis. Je pensais que ça se faisait après. Puis là, j'ai été agréablement surpris
que leur opération de communication ait inclus les députés de tous les partis, y inclus les chefs d'opposition. C'est une excellente idée. La communication dans des moments de crise, c'est la clé très souvent. Il faut que les gens soient alignés dans la même longueur d'onde puis qu'il n'y ait pas de rumeurs folles qui commencent à courir.
OK. Alors, on demande dans quel secteur on souhaite que l'armée intervienne. On l'écoute.
Les gens des Forces armées canadiennes sont en contact avec nos équipes de la sécurité civile, avec les gens ici du ministère et sont en train de déterminer la meilleure façon, les meilleurs endroits où intervenir, d'évaluer les besoins finalement pour assurer une réponse qui soit la plus efficace et coordonnée possible.
Donc, il n'y aura pas de déploiement. Vous attendez un déploiement des effectifs, quand? Parce que vous nous avez laissé entendre que la crue principale, ce serait dimanche. Est-ce que vous attendez un déploiement des effectifs demain? En 2017, ça avait pris une journée avant que les forces canadiennes se déploient.
Il y a déjà des communications, comme je vous dis, entre les forces armées et nos gens ici de la sécurité publique pour évaluer à quel moment et de quelle façon on peut s'assurer du déploiement le plus efficace et coordonné possible.
Est-ce que vous souhaitez un déploiement rapide?
Je souhaite un déploiement qui soit le plus coordonné et efficace possible, conformément aux besoins qui seront relevés un petit peu partout au Québec. La première étape, c'est bien sûr de faire un portrait des besoins pour évaluer la façon dont on peut répondre le plus efficacement et la manière la plus coordonnée possible.
Par exemple, il y a beaucoup de militaires tout près d'ici, à Valcartier, donc ça ne devrait pas être très long là, pour eux, pour se rendre, par exemple, à Beauceville. Vous attendez à ce que ça se fasse dans les prochaines heures?
Et comme je vous dis, il y a des discussions en ce moment. La première étape, c'est d'évaluer quels sont exactement les besoins et donc de quelle façon et à quels endroits il faut intervenir. Les gens des Forces armées canadiennes sont des habitués de ce genre de situation. Ce sont eux les experts. Nos gens aussi ici à la sécurité civile sont également des habitués. Donc, ces gens-là se parlent en ce moment pour voir quelle est la meilleure façon d'intervenir.
La mesure d'exception pour dimanche concernant les commerces, est-ce que c'est uniquement les villes qui sont visées ou les villes voisines?
De prime abord, je vous dirais toutes les villes, parce que si une ville visée, par exemple, n'a plus de commerce en état de fournir des services, c'est bienvenu que la ville voisine puisse prendre le relais et aider les citoyens de la communauté
Mais
voisine.
Il faut qu'on soit dans une zone à risque ou une zone où il y a des inondations.
En fait,
c'est pas applicable pour l'ensemble du Québec, c'est un peu ça le sens de ma question.
De prime abord, moi, je vous dirais, là, je vais faire des vérifications pour m'en assurer, mais moi, j'ai dans l'idée que ce serait pour tous les commerces du Québec, parce que l'idée, c'est de pouvoir se substituer à des commerces qui, eux, seraient éprouvés par les inondations. Je pense à des dépanneurs, des épiceries, des quincailleries. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir dépanner le maximum de citoyens dans des zones qui, elles, sont à risque et seront sinistrées.
La présence des militaires, évidemment, la présence des militaires, hein, ça va donner un bon coup de main, mais la présence des ministres concernés aussi, ça peut être rassurant pour la population, comme la présence de l'armée. Est-ce que vous et M. Legault allez vous rendre sur place dans les prochaines heures?
On fonctionne en fonction de l'évolution de la situation. Évidemment, on va ajuster les actions, la réponse, les présences et les communications en général. Donc, vous le voyez, depuis hier, depuis deux jours, là, on communique énormément quant aux actions que nous mettons en place, quant aux mesures que nous favorisons, quant au déploiement de nos effectifs gouvernementaux. Je peux vous assurer, je l'ai dit, je ne ménagerai aucun effort d'abord pour assurer la sécurité de tout le monde, mais effectivement pour assurer une certaine visibilité qui est de mise de la part du gouvernement, que ce soit de ma part ou de celle des autres. Mais je peux vous dire aussi que mes collègues régionaux, je pense à Mathieu Lacombe en Outaouais, sont très, très affairés sur le terrain. Mathieu, ce matin, remplissait des sacs de sable avec ses concitoyens de Gatineau. Donc oui, nous sommes tous, toute l'équipe gouvernementale est à pied d'œuvre en ce moment pour aider le plus possible.
Est-ce qu'il y a plus d'effectifs de la Sûreté du Québec qui ont été demandés?
Il n'y a pas spécifiquement d'effectifs qui ont été demandés à la Sûreté du Québec, mais tout le monde est en alerte au gouvernement. Donc, spécifiquement, les gens qui sont dans la sécurité publique en général, donc à la fois les corps policiers puis les gens de la sécurité civile, je vous dirais que tout le monde est conscient qu'il y a un effort, une présence ou une assistance supplémentaire qui pourrait être requise dans les jours à venir, d'autant plus qu'on est dans des jours fériés de Pâques. Alors oui, tout le monde est sur un pied d'alerte et les ressources disponibles seront mobilisées en conséquence.
Vous mentionnez qu'on s'attend à des débordements plus dimanche, selon les prévisions. Est-ce que le déploiement se fera en amont de ça? Peut-être demain, peut-être ce soir.
Qu'est-ce que vous voulez dire, le déploiement?
Le déploiement des forces armées.
Bien, comme je vous dis, notre déploiement à nous, les gens de la sécurité civile, il est déjà fait depuis deux jours. Donc, on continue de se déployer dans les zones les plus à risque. Pour ce qui est du déploiement de l'armée, comme je l'ai expliqué, j'ai fait la demande, moi, d'assistance officielle ce matin. J'ai reçu la réponse. J'ai vu un tweet, entre autres, de M. Goudert qui réitérait sa volonté de collaborer. Donc, les communications sont déjà en place entre les Forces armées canadiennes et nos équipes de la sécurité publique et sont en train de déterminer exactement la façon dont on va relever les besoins qui sont présents au Québec et la façon dont on va assurer une réponse qui soit la plus efficace et la plus coordonnée possible.
Qui vous a parlé? Qu'est-ce qu'il vous a dit au juste? Est-ce que vous lui avez parlé personnellement?
Oui, je lui ai parlé dans les dernières minutes, il y a tout juste peut-être 20 minutes, et je lui ai justement fait part verbalement du fait que je lui avais envoyé cette demande formelle. Il m'a assuré de toute la collaboration et de toute l'ouverture du gouvernement fédéral. Alors, je l'ai remercié et on s'est souhaité mutuellement bonne chance puisque lui doit gérer aussi d'autres événements ailleurs dans le Canada de même nature.
On sait que vous avez préparé le terrain cette semaine, là, si vous... Que c'était pas vraiment une surprise pour eux, le gouvernement fédéral, que vous fassiez cette demande-là, non?
Il faudrait lui poser la question, mais j'imagine qu'il suit comme nous l'actualité, les prévisions météo et devait s'attendre effectivement à ce qu'une telle chose survienne parce que
2017,
ça fait quelques jours.
Il y a eu beaucoup de critiques. Là. On disait que ça avait été fait trop tardivement. Ça avait pris presque une semaine et demie, deux semaines avant qu'on demande l'intervention de l'armée. Là, c'est pas le cas. Vous le faites avant que ça arrive.
Mais ce que je disais hier là-dessus, c'est qu'on suivait l'évolution de la situation. Ça change d'heure en heure. Donc, hier soir encore, on se dit on va réévaluer demain matin. Et ce matin, on s'apercevait que là, les informations qu'on avait sur pas la recrudescence, mais l'augmentation de la crue printanière anticipée justifiait qu'on puisse déjà enclencher les démarches pour faire appel au gouvernement fédéral et aux Forces armées canadiennes parce qu'évidemment, on ne veut lésiner sur aucun moyen et on ne veut ménager aucun effort pour s'assurer de se prémunir autant que possible des conséquences des futurs sinistres et bien sûr d'atténuer autant que possible les conséquences sur nos citoyens, sur nos infrastructures et sur nos services.
Parce qu'hier encore, vous aviez écarté la possibilité de...
Et c'est justement la façon d'être le plus proactif possible pour assurer d'abord la population, puis prendre les moyens nécessaires qu'il faut aussi pour être capable de venir en aide à cette population-là.
Il, ben, il faut
moyens.
Anticiper un peu. Voilà. Faut avoir, bon, et jusqu'à maintenant, on verra. Là. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu réagir aussi vite. Et de
ben, Alain Laforêt, il n'avait pas tout à fait tort en disant qu'en 2017, là, ça avait niaisé une semaine de temps avant de
demander. Oui, c'est vrai. Mais il y a eu bien des discussions là-dessus. Oui, non, oui, non, oui, non. Je pense que si c'était à refaire en 2017, ils auraient demandé avant.
Ouais.
Mais là, je pense qu'ils se conduisent avec prudence. Et je fais juste un peu de coq à l'âne pour te mentionner que le général Jenny Carignan, à qui elle faisait référence... C'est la première femme de l'histoire des Forces armées canadiennes d'avoir... Non, il y a eu des généraux avant, mais à devenir commandante d'une unité de combat, la deuxième division canadienne. Alors, général Carignan, c'est elle qui est aux commandes à l'heure actuelle, parce que ça se passe à l'intérieur de la deuxième division canadienne.
OK. Et c'est l'organisation qui vient en aide, justement, ces soldats-là dont tu nous parlais un petit peu plus tôt, là, ça fait partie de ça.
L'unité d'intervention immédiate fait partie de la deuxième division canadienne. Elle est basée à Valcartier. La deuxième division canadienne, ce sont essentiellement les forces terrestres au Québec.
Rien à voir avec le Royal 22e.
Là, ah oui, non, le Royal 22e fait partie de la deuxième division. C'est le grand parapluie. Là.
Okay.
Vous avez le Royal 22e, vous avez les autres régiments de soutien, le 12e RBC qui est un bataillon de blindés, vous avez de l'artillerie, vous avez évidemment les forces de réserve, vous avez le soutien logistique. C'est ce qu'on appelle la deuxième division canadienne, qui est une forme de regroupement de toutes ces unités-là qui, en principe, sont capables de se coordonner d'une façon permanente. Mm-hmm. Et dans un cas comme celui qu'on vit là, ben, c'est là que tu déploies tout ce que tu as comme ressources pour venir en aide aux gens.
Au risque de me répéter, moi, ce qui me rassure dans toute cette intervention du gouvernement, il y a toutes sortes de petites mesures.
Oui.
D'abord, de demander l'armée d'avance, là, même si on dit que ça prend 24 heures avant le déploiement complet pour être capable de venir en aide.
Déjà, c'est juste à moitié vrai, François, en passant. Je suis sûr qu'il y a déjà des éclaireurs en très grand nombre de l'armée qui sont en train de déterminer à quelle place que les véhicules vont approcher.
Soit en hélicoptère ou peu importe. Là.
Ah, ou sur les lieux. Je suis convaincu qu'il y en a au moins une vingtaine qui sont en train de faire le travail de préparation, les éclaireurs.
Mm-hmm. L'autre chose aussi, c'est d'être capable de fournir tout de suite des services aux municipalités via la sécurité publique, laisser et de donner la permission aux municipalités, de donner la permission justement au commerce de rester ouvert dimanche si on a besoin d'aide.
Oui, c'est une bonne idée, c'est un beau flash qu'ils ont eu parce que le dimanche de Pâques est un peu particulier, c'est un jour où tu ne peux pas ouvrir.
Soit tu as un Rona, tu n'es pas capable d'ouvrir là, dans le coin, tu as besoin de feuilles de plywood. Là, excuse-moi, là, mais des feuilles de plywood pour être capable de conforter tes fenêtres là, devant la crue. Là. Tu t'en vas à la municipalité de côté et c'est ouvert. Ben,
des génératrices électriques, si tu veux en trouver. Je pense que...
Je serais curieux, en parlant d'électricité, c'est quoi le rôle d'Hydro-Québec dans tout ça?
Ça, je ne sais pas.
Comment on va pour, par exemple, une région qui est... Ils vont travailler, c'est sûr, il faut que tu coupes l'électricité.
Mais comment tu coordonnes tout ça? C'est ça qui est la vraie clé. Hein? Oui. Je ne sais pas. Je sais, par exemple, que l'armée
ou,
en 2017, ils avaient... Je pense que c'était la première fois qu'ils déployaient des espèces de petits bateaux là, qui sont faits pour aller dans très peu d'eau et qui peuvent rapidement aller porter secours. Je pense qu'ils en avaient déployé plus, ou peut-être que c'était la première fois,
je pense ce type de petits navires. Il y a une unité de génie aussi, là, qui est habilitée à travailler avec les gens du Québec.
Dans l'unité d'intervention immédiate, il y a le groupe de génie qui les accompagne toujours.
Bon, ben très bien. 14h28, on reste en émission spéciale jusqu'à 15h. Luc, si tu nous permets, on va aller s'informer qu'est-ce qui se passe à Laval. Vous connaissez le juge Gibault, entre autres. Elle aussi, dans Beauce, il y a des problèmes. Il est en train de poser des 5 décembre, croyez-le ou non.
Dans l'Outaouais.
Dans l'Outaouais. Et je sais pas pourquoi je parlais de la Beauce, parce que je voyais quelque chose de la Beauce tantôt. Là, qui,
c'est lâche, François, c'est lâche.
Non, c'est parce qu'on va aller à Beauceville. On va aller à Beauceville aussi s'informer, parce que là-bas aussi, on se prépare pour les inondations. D'ailleurs, il y en a
déjà.
Il y en a déjà, effectivement. Tout de suite après la pause.